Votre Bible, nous sommes dans une série d'études sur les psaumes et aujourd'hui nous allons étudier un psaume de Noël. Voilà. Un peu un psaume de Noël parce que ce psaume nous parle de Jésus-Christ et son incarnation. Alors, nous allons peut-être reprendre la lecture du psaume parce que vous ne l'avez pas bien suivi au début du culte. C'est court, donc on va juste reprendre la lecture et vous allez peut-être vous faire titre maintenant que dans le passage de Matthieu 21, le psaume 8 vient d'être cité. Vous l'avez vu? Vous avez remarqué que Jésus a dit « N'avez-vous jamais lu que de la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, Dieu a établi la louange pour lui-même ?» Ok, nous relisons. Verset 2. « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple, ça c'est une première partie, deuxième partie, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » La première partie, la grandeur de la création et la petitesse de l'homme par rapport à cette majesté de Dieu, du Dieu créateur. Troisième partie. Malgré l'insignifiance de la petitesse de l'homme, il dit, tu l'as fait, tu as fait l'homme de peu inférieur aux anges. De toute façon, c'est comme ça que le Nouveau Testament interprète, quand il cite le passage, il dit que le Elohim ici, c'est les anges, Hébreux 2, cite et commente sur le psaume 8. Donc je le dis comme cela. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné, donc à l'homme, la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, dans un Occident au moins, où les gens ont perdu vraiment tout sens de raison d'être dans la vie. Et c'est un des grands problèmes dans la France. On en parle. On sait que la France est le champion de l'Europe pour l'utilisation des drogues antidépresseurs et presque le champion du monde. C'est une bataille entre le Japon et la France. Mais il n'y a aucun autre pays du monde entier qui est plus déprimé vraiment que les Français. Cela est l'héritage d'une philosophie de vie où on dit « il n'y a pas de sens ». Et vous savez que nous, ne pouvons pas vivre sans sens. Et nous ne pouvons pas fabriquer un sens. Ce n'est pas un sens si on l'a fabriqué. Et ce sens doit être égal à l'esprit humain. Et comme c'est Dieu lui-même qui nous a créés pour lui, et pour être son adorateur, le plan pour l'homme, qu'est-ce que tu devais être quelqu'un en relation avec le Dieu infini? Et bien plus, quelqu'un qui allait partager même la gloire de Dieu, pas être Dieu, mais quand même être placé par Dieu dans une situation d'être son image et d'être son délégué pour régner sur l'univers. Ah oui, je le dis comme ça. Nous le verrons, mais l'homme, par son péché, nous détournant de Dieu, nous avons perdu ce plan, cette raison d'être, cette dignité. Et donc nous vivons donc les conséquences horribles de cela. Tournons en rond, qu'est-ce que le chant dit? Que l'homme tourne en rond, n'est-ce pas? Le chant moderne. Et donc ce psaume nous parle de la manière dont Dieu restaure et rétablit une nouvelle humanité au plan d'origine. Et à la gloire de ce plan. Et vous allez voir. Donc, juste un mot sur la structure du psaume. Donc, dans les versets 1 à 3, vous avez juste une petite introduction. OK? Sinon, le psaume est divisé en deux parties. Je vous ai fait voir ça en lisant. Il y a une première partie, donc dans les versets 4 et 5, où le psalmiste parle de la grandeur de la création et du créateur qui l'a fait, et donc qui suscite cette prise de conscience de notre petitesse. Ça, c'est la première partie. Dieu est grand en créant. Ok. Tellement grand que je me demande pourquoi il penserait à moi. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, le psalmiste dit, mais pourtant, je ne suis pas oublié de Dieu ou négligé, ou au contraire, il a fait de l'homme celui qui est couronné de gloire, qui domine sur le monde et sur tout ce qu'il a fait dans le monde ici-bas, ainsi de suite. Donc, dans la deuxième partie, ayant vu la grandeur de Dieu comme créateur, dans sa puissance, on voit la grandeur de Dieu dans sa bonté envers l'homme, ok? Dans cette grâce condescendante, qui, loin d'oublier l'homme dans sa petitesse, l'élève à un statut incroyable. Et il finit le psaume comme il a commencé, avec la même phrase, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Un Dieu qui fait de telles choses, qui a tel plan pour nous, qui sommes rien, que tu dois être infiniment rempli de bonté et d'amour. Ok, bien, ça c'est un peu la structure. Et il faut que vous sachiez aussi que ce psaume est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Vous savez où? Longuement en Hébreux 2, où il y a carrément un commentaire, une explication sur comment ce psaume prophétise la venue de Jésus-Christ et sa mort et sa résurrection. Éphésiens 2, où cette partie est citée, tu as tout mis sous ses pieds. Mais Éphésiens 2 dit que cette phrase se réfère ultimement à Jésus-Christ et la manière dont tout a mis sous ses pieds. Et 1 Corinthiens 15, même chose, même phrase citée, même connotation. Ben, nous allons voir, mais comment est-ce qu'il peut penser que le psalmiste parle du Messie, de Jésus-Christ? Et nous allons voir comment cela est complètement logique. Rappelez-vous quand même que Pierre dit dans sa première épître que les prophètes ont sondé leur propre prophétie en essayant de comprendre quand Dieu leur donnait des prophéties concernant les souffrances du Messie et les gloires à suivre. Ils ont sondé leur propre prophétie pour essayer de comprendre à quel temps ça se référait. Et il leur a été dit que ce n'était pas pour eux, mais pour nous qui suivrons. Donc, ils savaient qu'il y avait quelque chose dans leur propre prophétie qui dépassait ce qu'ils comprenaient. Et David, il prophétise, il parle de quelque chose, mais il y a un dépassement qui parle du Sauveur dans ce psaume et pas seulement de l'homme en général. Mais nous allons voir et vous allez voir vous-même. Ok, on commence, donc on va prendre ça en trois parties. Ok, d'abord la première partie, versets 1 et 2, l'introduction. C'est une miniature du message du psaume. Ok, on le relit, on essaie de comprendre, mais rapidement. Les versets 2 et 3. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Dieu est magnifique, on le voit partout, il fait des choses incroyables, mais vraiment incroyables. Mais pourtant, il y a des ennemis. Dieu a des ennemis dans ce monde, ce Dieu-là. Parce que le verset 3 nous dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Eh bien, c'est vrai aujourd'hui. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui veulent que le vrai Dieu créateur n'existe pas. Ils inventent toutes sortes de philosophies pour dire qu'il n'y a pas de créateur, et aux fausses religions pour attribuer cette création à quelqu'un d'autre. Et comment est-ce que ce Dieu qui est tellement grand, comment est-ce qu'il fait silence? Comment est-ce qu'il fait taire ses ennemis? Si nous ne connaissions pas Dieu, nous dirions probablement, il va exercer sa force et il va les faire taire de force. Notre Dieu n'est pas comme ça. Il fait exactement le contraire. C'est par la bouche des enfants, des petits-enfants, et ceux qui sont à la mamelle, et nous en avons un dans la pièce, c'est par des petits-enfants que Dieu va faire taire les ennemis qui blasphème. Alors, nous avons lu le récit en Matthieu 21. Jésus arrive en roi sur l'âne à Jérusalem. Il va mourir dans quelques jours. Il est Dieu le Fils. Il est le Créateur. Il est aussi homme, un homme qui va rétablir la dignité de l'homme dans le monde pour nous qui l'aimons. Mais donc, il chasse les vendeurs du temple. Il guérit les malades. Il domine sur la scène religieuse, il domine sur les maladies. Et les enfants sont en train de crier dans le temple, tu es le Messie. Parce qu'ils disent Hosanna au fils de David. C'est un nom technique qui signifie que tu es le Messie, le sauveur qui devait venir. Les pharisiens sont furieux. Ce sont les adversaires de Dieu, dont le psaume parle. Ils disent, Jésus, tu entends ce que les enfants disent à ton sujet? Et Jésus cite le psaume 8 et il dit, n'avez-vous pas lu? Et je vais juste relire le verset pour que vous puissiez voir sa réponse parce que c'est extrêmement important. Il dit ceci. Donc, ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, lui leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Mais attention, chers amis, dans le psaume 8, ce verset parle des enfants à la mamelle, des enfants qui louent Dieu. Or, Jésus attribue ça aux enfants qui parlent de lui. Ainsi, il dit qu'il est le Dieu dont le nom est magnifique sur toute la terre. Voilà la scène des hommes hautains, grands, puissants, mais durs de cœur, qui ne veulent pas que le vrai Dieu ait sa gloire, et des enfants dans le temple, 4 ans, 5 ans, qui voient les guérisons, et tout enfant n'est pas comme ça, parce que les enfants sont pécheurs aussi. Mais voilà des enfants dans lesquels Dieu a condescendu, ils sont insignifiants, d'œuvrer par sa grâce pour que leur petit cœur soit complètement ouvert à lui. Et quand le Fils de Dieu est là, eux, ils répondent comme il faut. Gloire à toi, tu es le fils de David. Et les pharisiens sont obligés de se taire. Que peux-tu dire quand il y a des petits-enfants, tout innocents, c'est-à-dire ils n'ont aucune, ça ne leur gagne rien de dire que Jésus est le Messie, mais qui répondent tout simplement dans la franchise et dans la spontanéité. Gloire à Dieu, tu es le fils de David. Et la pharisienne ne peut rien dire. Donc la manière dont Dieu fait taire ses ennemis, c'est pas par une manifestation de force pure, c'est pas par la grandeur de sa puissance, c'est pas par la hauteur à laquelle sa majesté va, c'est plutôt il est fait taire par la bassesse à laquelle sa grâce atteint. Petits enfants, il va jusqu'à eux qui sont rien, il éveille leur cœur de sorte qu'ils sont meilleurs que les pharisiens. Un Dieu de grâce. Nous pouvons bien nous regarder. Sommes-nous plus comme les pharisiens, toujours en train de douter, toujours en train de rebuter la vérité, toujours en train d'avoir une excuse, une objection, ça peut pas être le Fils de Dieu, ça peut pas être le Sauveur, ou bien nous sommes comme ces petits-enfants. Et Jésus dit, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume. Ok, deuxième partie. Nous lisons les versets 4 à 5. Quand je contemple les cieux, dit David, et rappelez-vous, il était quoi, David, avant d'être roi? Il était berger. Il passait la plupart de ses nuits où? À la belle étoile. Il avait du temps pour regarder les cieux. Et il avait un cœur ouvert à Dieu pour les regarder non comme, pas comme les cieux, mais comme l'ouvrage de tes mains. Donc il regardait ses nuits et il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Et c'est un vrai cri, c'est une vraie question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes même de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Ben, nous avons encore plus de raisons aujourd'hui, parce que David ne voyait que les étoiles visibles, et ça c'est déjà magnifique. Mais nous savons aujourd'hui que le soleil a un diamètre 109 fois celui de la Terre. Donc 109 terres peuvent aller dans le Soleil. Ah, une seule étoile. Notre galaxie a un diamètre de 160 000 années-lumière. Ça veut dire qu'il faudrait 160 000 années pour que la lumière passe d'un bout de notre galaxie à l'autre. Notre galaxie, c'est un ensemble d'étoiles, n'est-ce pas? Et on nous dit qu'il y a plus de 100 milliards d'étoiles dans notre petite galaxie, parce qu'elle n'est pas si grande en tant que galaxie. 100 milliards d'étoiles, déjà ça dépasse l'entendement. Mais on nous dit que notre galaxie se trouve dans un groupement de galaxies qu'on appelle, je ne sais pas le mot en français, en anglais on dit supercluster. Est-ce que vous savez le mot? Non. Ben, en tout cas, les galaxies se retrouvent dans des espaces dans l'univers où plusieurs galaxies sont rapprochées et ensuite il y a de grands espaces et il n'y a plus de galaxies.
C'est un super amas.
Super amas. Ok, bon, vous comprenez. Donc il y a des galaxies qui sont ensemble dans une région de l'univers et puis il y a des grands espaces où il n'y en a pas. Ok? Et dans ce super amas.
Amas comme un tas.
Ok. Donc, il s'appelle Virgo. Ce super amas a un nom qu'on lui a donné. Il y a 1000 galaxies. Maintenant, 1000 galaxies, et si notre galaxie a plus de 100 milliards d'étoiles, et il y a des tas et des tas et des tas, des millions de super amas dans l'univers. On nous dit qu'il y a probablement un milliard de galaxies dans l'univers. Chaque galaxie ayant des milliers, des centaines de milliards d'étoiles. Chaque étoile étant des centaines, parfois des milliers la taille de la Terre. Et c'est Dieu qui a fait ça de son droit. Comme cela. Et la Bible nous dit qu'il connaît le nom de chaque étoile. Quand on contemple cela, si nous sommes vivants spirituellement, nous aussi nous disons, qu'est-ce que l'homme? Dans ce point sur un point sur un point sur un point infime de l'univers, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes même qu'il est là? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? C'est une bonne question. Et ici, il n'y avait en Dieu que la grandeur de puissance. C'est sûr qu'il nous oublierait. S'il n'était que puissance créateur, nous sommes tellement petits. Mais le psaume va nous dire qu'il y a quelque chose d'autre en Dieu. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant dans la dernière partie. La dernière partie, c'est les versets 6 à 9 que nous lisons maintenant. Nous lisons donc, malgré donc cette grandeur et la petitesse de l'homme, tu l'as fait, l'homme, de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as mis tout sous ses pieds, les brebis, les animaux, les oiseaux, les poissons, tout ce qui parcourt les sentiers. Dans cette partie, nous voyons quelque chose qui ne correspond pas trop bien à la race humaine aujourd'hui. L'homme, dans cette dernière partie du psaume, c'est trop idéal, n'est-ce pas? En fait, David n'est pas en train de penser à l'humanité telle qu'elle est maintenant. Il est en train de penser à l'homme, à sa création. Il est presque en train de citer Genèse chapitre 1 et les versets 27 et 28 que je vous lis pour comprendre ce qui est dans sa tête par l'inspiration de l'Esprit. Il est dit donc que ce sixième jour, Dieu créa l'homme en son image, en l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est le psaume 8, n'est-ce pas? Et mentionner les oiseaux, les poissons et ce qui va sur les sentiers. Donc, sans aucun doute, David est en train de penser à la place et au statut de l'homme dans ce plan original. Et de manière prophétique, s'il est en train de penser au premier Adam, il est en train de prophétiser sur le deuxième Adam, Jésus-Christ, qui est celui qui va restaurer l'humanité au plan d'origine qui a été perdu. Un premier Adam enfante, une race qui a raté le plan, un deuxième Adam va enfanter une race qui va retrouver le plan, où l'homme est couronné de gloire, proche à Dieu, régnant sur toute chose pour Dieu, remplissant la terre et l'univers de la gloire de Dieu dont il est le reflet et l'image. Ça, c'est un plan. Alors, vous voyez que nous devons, si nous allons comprendre ce psaume, nous devons le considérer à la lumière du premier Adam, et puis du deuxième. Je vais le faire rapidement et puis on aura fini. D'abord, à la lumière du premier Adam, pensons au jardin d'Éden. Mettons-nous là, à ce début de l'humanité. Alors, le texte nous dit que tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Voilà Adam qui, dans l'univers, à part les anges qui sont très glorieux. Et vous savez que lorsque l'homme voit un ange dans la Bible, il est terrassé souvent. Juste le fait de voir la gloire de l'homme, ça vide son corps physique de toute sa force. Les anges sont glorieux. En hébreu, cette phrase signifie soit tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, ou bien tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Quand Hébreux chapitre 2 va citer le passage, il va plutôt prendre « tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges ». Parce que même à la création originelle, le plan de Dieu n'était pas que l'homme reste inférieur aux anges. Il devait prendre de l'arbre de la vie et atteindre un stade plus haut, plus glorieux que ce qu'il avait au début. Maintenant, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Pensez à ce premier Adam. Il a la gloire de l'image de Dieu, ce que les anges n'ont pas, de la même manière que l'homme. Et tu lui as donné domination. Il domine. C'est Dieu qui est dominateur. Mais il donne à l'homme son image, son fils, dans un sens, de jouer ce rôle de dominer. D'exercer la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu et l'influence de toutes les grâces de Dieu, parce qu'il ressemble à Dieu quand il n'est pas pécheur. Et en remplissant la terre, il va remplir la terre d'une humanité bonne, sage et fort. Sauf que l'homme chute. Et tout cela est perdu. Maintenant, nous arrivons donc au deuxième Adam. Et pour cela, je veux juste vous demander de tourner un coup à Hébreux 2, parce que c'est lui qui va nous aider à comprendre comment ce psaume parle de Jésus-Christ. Et là, c'est la fin. Maintenant, pour vous situer, il faut que vous vous rappeliez maintenant, avant que je lise, que nous venons de dire, que le psalmiste vient de dire, David vient de dire, il est carrément un miracle que ce Dieu, étant tellement grand et majestueux, se souvienne même de l'homme, de nous, de toi. C'est carrément une merveille quand on comprend la grandeur de Dieu. La Bible dit en Ésaïe 40 que les nations sont comme une goutte d'eau, comme un grain de poussière devant Dieu, que les nations sont néant et moins que néant, tellement Dieu est grand. Et pourtant, Dieu prend soin non seulement de la créature petite, mais même de la créature devenue rebelle à lui et indigne de lui. C'est pas seulement quand Adam est parfait que Dieu l'élève. Ce qui est bien plus étonnant, c'est que lorsque Adam et nous ne sommes plus innocents, lorsque nous sommes des rebelles, des adversaires à Dieu, au lieu de nous bannir, nous oublier, il vient nous élever, lever l'humanité, le sauver, le transformer, le restaurer et nous donner une gloire incroyable. Et c'est ce que nous voyons ici. Donc nous lisons dans Hébreux chapitre 2 et les versets 6 à 10. Lisez avec moi. Donc il dit, « Oh, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. » Et il cite le psaume. « Qu'est-ce que l'âme pour que tu te souviennes de lui ? Ou le fils de l'âme pour que tu prennes soin de lui ? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Maintenant, on va voir que lui, il parle de Jésus-Christ, le deuxième Adam. En effet, en lui soumettant toutes choses, pour le moment, je crois qu'il parle encore de l'humanité, Dieu n'a rien laissé qu'il ne lui soit soumis. Sur la terre, dans la première création. Cependant, nous ne voyons pas maintenant que toutes choses lui soient soumises. Ça ne correspond pas à ce que nous sommes pour le moment. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Alors, si nous reprenons le psaume 8, c'est quelques trois phrases, avec le deuxième Adam, Jésus en tête, voilà ce que nous comprenons. Et c'est là que je voulais en arriver ce matin. Alors, je reprends. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, ou bien Hébreux 2 dit, tu l'as fait, lui Jésus, pour un peu de temps inférieur aux anges. Maintenant, comment est-ce que Dieu va nous restaurer l'humanité à cette dignité incroyable, nous qui sommes tellement petits? Il faut que lui-même, il prenne notre humanité là jusqu'au point où on l'a dégradée. On l'a traîné la chose dans la boue, ce que c'est que d'être un homme, donc il faut que Jésus aille dans la boue. Tu ne peux pas élever quelque chose sans aller le chercher. Donc Jésus est fait pour un peu de temps inférieur aux anges, une descente infinie. Et pas seulement inférieur aux anges, il va jusqu'à être un homme, un serviteur, un criminel, un maudit sur la croix. Et ça, c'est le Dieu dont on se rappelle, c'est un miracle qui se souvient même de nous. Et il fait ça pour des pécheurs. Comment? Qu'est-ce qu'il y a en lui qui le pousse à de telles merveilles? Deuxième phrase. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, de magnificence. Et en Hébreu 2, l'auteur de l'Épître dit que ça parle de la résurrection. Première phrase. Jésus est devenu un peu, pour un peu, inférieur aux anges, et après sa mort, il a été couronné de gloire et d'honneur. Donc voilà ce Jésus qui va chercher notre humanité, qui le prend sur lui, qui est Dieu, cette humanité qui est dégradée en statut, et maintenant, il doit subir toutes les conséquences que nous avons tirées sur l'humanité. Une fois qu'il a tout payé, qu'il a tout vaincu, avec cette humanité maintenant, il va être couronné de gloire. Il est ressuscité, il monte vers Dieu lui-même, ce grand Dieu dont nous parlons dans notre psaume. Il est assis à sa droite en tant qu'homme. Il a exalté mon humanité jusqu'au nu et au-dessus des nus. Maintenant, au-dessus des cieux, au-dessus des galaxies, au-dessus des anges, plus exaltés que toute chose dans l'univers, sauf Dieu lui-même, il y a un homme. C'est l'humanité qui est là, une nouvelle humanité, qui a été bénie, pas oubliée. Comment est-ce que tu te souviens même de moi? Mais exalté. Et délégué comme le prince qui va régner sur l'univers, pas seulement sur les oiseaux, mais même sur les anges. Et c'est pour cela que nous lisons que tu l'as couronné de gloire et de grâce, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Voilà la position de Jésus-Christ. Mais Jésus avait déjà cette position avant de devenir homme. Pourquoi est-ce qu'il a subi tout ça? Parce qu'il voulait avoir cette position, non pas en tant que Dieu, il l'avait déjà, mais en tant qu'homme. Il voulait prendre notre humanité et l'exalter jusqu'au trône de Dieu. Non pas que nous soyons Dieu, loin de là. mais que nous soyons son image. La chose la plus exaltée dans l'univers, en dessous de Dieu infini. Il y aura toujours une distance infinie entre Dieu et nous, bien sûr. Mais ce que le psaume nous dit, c'est simple. Dieu a un plan incroyable pour l'humanité. Ce n'est pas quelque chose de petit. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose pour l'éternité. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas sonder. Et Jean dit dans sa première épître, nous savons que nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons, nous ne le savons pas. Tellement c'est glorieux. Mais nous savons ceci, que lorsque nous le verrons, lorsque il viendra, nous serons comme lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Le psaume finit donc, ayant vu que Dieu est tellement grand qu'il est étonnant qu'il se souvienne même de nous, mais chose étonnante, au lieu de nous oublier, il nous exalte. Il vient restaurer tout ce que nous avons gâché. Sa puissance est grande pour créer les étoiles, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand en Dieu. Ce n'est pas sa puissance. C'est sa grâce condescendante qui va chercher l'homme tellement petit, l'homme tellement pécheur, et qui va l'exalter tellement, le couronner de gloire, lui donner la domination. Ô Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous allons chanter ensemble un dernier chant de Noël qui parle un peu de ces choses.